Monsieur Lenormand commence ses opérations. Chapitre 1er. Auguste, faites entrer Monsieur Lenormand. L'huissier sortit et quelques secondes plus tard introduisit le chef de la sûreté. Il y avait dans le vaste cabinet du ministère de la place Beauvau trois personnes, le fameux Valenglet, leader du parti radical depuis 30 ans, actuellement président du conseil et ministre de l'intérieur, M. Testard, procureur général, et le préfet de police de l'Homme. Le préfet de police et le procureur général ne quittèrent pas les chaises où ils avaient pris place pendant la longue conversation qu'ils venaient d'avoir avec le président du conseil, mais celui-ci se leva et, serrant la main du chef de la sûreté, lui dit du ton le plus cordial « Je ne doute pas, mon cher Lenormand, que vous ne sachiez la raison pour laquelle je vous ai prié de venir. L'affaire Kesselbach. Oui. » L'affaire Kesselbach. Il n'est personne qui ne se rappelle non seulement cette tragique affaire Kesselbach, dont j'ai entrepris de débrouiller l'écheveau complexe, mais encore les moindres péripéties du drame qui nous passionna tous 2 ans avant la guerre. Et personne non plus qui ne se souvienne de l'extraordinaire émotion qu'elle souleva en France et hors de France. Et cependant, plus encore que ce triple meurtre accompli dans des circonstances si mystérieuses, plus encore que l'atrocité détestable de cette boucherie, plus encore que tout, il est une chose qui bouleversa le public, ce fut la réapparition, on peut dire la résurrection d'Arsène Lupin. Arsène Lupin. Nul n'avait plus entendu parler de lui depuis 4 ans, depuis son incroyable, sa stupéfiante aventure de l'aiguille creuse, depuis le jour où, sous les yeux de Herlock Sholmes et d'Isidore Beautrelet, il s'était enfui dans les ténèbres, emportant sur son dos le cadavre de celle qu'il aimait et suivi de sa vieille nourrice Victoire. Depuis ce jour-là, généralement, on le croyait mort. C'était la version de la police qui, ne retrouvant aucune trace de son adversaire, l'enterrait purement et simplement. D'aucuns, pourtant, le supposant sauvé, lui attribuaient l'existence paisible d'un bon bourgeois qui cultive son jardin entre son épouse et ses enfants, tandis que d'autres prétendait que, courbé sous le poids du chagrin et las des vanités de ce monde, il s'était cloîtré dans un couvent de trappistes. Et voilà qu'il surgissait de nouveau. Voilà qu'il reprenait sa lutte sans merci contre la société. Arsène Lupin redevenait Arsène Lupin, le fantaisiste, l'intangible, le déconcertant, l'audacieux, le génial Arsène Lupin. Mais cette fois, un cri d'horreur s'éleva. Arsène Lupin avait tué. Et la sauvagerie, la cruauté, le cynisme implacable du forfait était tel que du coup la légende du héros sympathique, de l'aventurier chevaleresque et au besoin sentimental, fit place à une vision nouvelle de monstre inhumain, sanguinaire et féroce. La foule exécra et redouta son ancienne idole, avec d'autant plus de violence qu'elle l'avait admiré naguère pour sa grâce légère et sa bonne humeur amusante. Et l'indignation de cette foule apeurée se tourna dès lors contre la police. Jadis, on avait ri. On pardonnait au commissaire Rossé pour la façon comique dont il se laissait rosser. Mais la plaisanterie avait trop duré, et dans un élan de révolte et de fureur, on demandait compte à l'autorité des crimes inqualifiables qu'elle était impuissante à prévenir. Ce fut dans les journaux, dans les réunions publiques, dans la rue, à la tribune même de la Chambre, une telle explosion de colère que le gouvernement s'émut et chercha par tous les moyens à calmer la surexcitation publique. Valenglet, le président du conseil, avait précisément un goût très vif pour toutes les questions de police, et c'était plus souvent à suivre de près certaines affaires avec le chef de la sûreté dont il prisait les qualités et le caractère indépendant. Il convoqua dans son cabinet le préfet et le procureur général, avec lesquels il s'entretint, puis M. Lenormand. Oui, mon cher Lenormand, il s'agit de l'affaire Kesselbach. Mais avant d'en parler, j'attire votre attention sur un point. Sur un point qui tracasse particulièrement M. le préfet de police. M. Delhomme, voulez-vous expliquer à M. Lenormand?
Oh, M. Lenormand sait parfaitement à quoi s'en tenir à ce sujet, répliqua le préfet d'un ton qui indiquait peu de bienveillance pour son subordonné.
Nous en avons causé tous les deux. Je lui ai dit ma façon de penser sur sa conduite incorrecte au Palace Hotel. D'une façon générale, on est indigné. Monsieur Lenormand se leva, sortit de sa poche un papier qu'il déposa sur la table.
Qu'est-ce ceci ? Demanda Valenglay.
Ma démission, monsieur le président.
Valenglay bondit.
Quoi ? Votre démission ?
Pour une observation bénigne que monsieur le préfet vous adresse, et laquelle il n'attribue d'ailleurs aucune espèce d'importance, n'est-ce pas, de l'homme ? Aucune espèce d'importance.
Et voilà que vous prenez la mouche.
Vous avouerez, mon bon Lenormand, que vous avez un fichu caractère. Allons, rentrez-moi ce chiffon de papier et parlons sérieusement.
Le chef de la sûreté se rassit, et Valenglay, imposant le silence au préfet qui ne cachait pas son mécontentement, prononça
« En deux mots, le Normand, voici la chose. La rentrée en scène de Lupin nous embête.
Assez longtemps cet animal-là s'est fichu de nous. C'était drôle, je le confesse, et pour ma part j'étais le premier à en rire.
Il s'agit maintenant de crimes.
Nous pouvions subir Arsène Lupin tant qu'il amuse à la galerie, s'il tue, non. »
Et alors, monsieur le président, que me demandez-vous ?
Ce que nous demandons ?
Oh, c'est bien simple.
D'abord son arrestation, ensuite sa tête.
Son arrestation, je puis vous la promettre pour un jour ou l'autre.
Sa tête, non.
Comment ?
Si on l'arrête, c'est la cour d'assises, la condamnation inévitable et l'échafaud.
Non.
Et pourquoi non ?
Parce que Lupin n'a pas tué.
Hein ? Mais vous êtes fou, le Normand.
Et les cadavres du Palace Hôtel, c'est une fable, peut-être ?
Il n'y a pas eu triple assassinat ?
Oui.
Mais ce n'est pas Lupin qui l'a commis ?
Le chef articula ces mots très posément, avec une tranquillité et une conviction impressionnantes. Le procureur et le préfet protestèrent, mais Valenglay reprit
« Je suppose, le Normand, que vous n'avancez pas cette hypothèse sans de sérieux motifs.
Ce n'est pas une hypothèse.
La preuve ?
Il en est deux, d'abord, deux preuves de nature morale.
Que j'ai sur le champ exposé à monsieur le juge d'instruction et que les journaux ont souligné.
Avant tout, Lupin ne tue pas.
Ensuite, pourquoi aurait-il tué puisque le but de son expédition, le vol, était accompli et qu'il n'avait rien à craindre d'un adversaire attaché et bâillonné ?
Soit, mais les faits ne valent pas contre la raison et la logique, et puis les faits sont encore pour moi.
Que signifierait la présence de Lupin dans la chambre où l'on a trouvé l'étui à cigarette ?
D'autre part, les vêtements noirs que l'on a trouvés et qui étaient évidemment ceux du meurtrier, ne concordent nullement, comme taille, avec ceux d'Arsène Lupin.
Vous le connaissez donc, vous ?
Moi, non. Mais Edwards l'a vu, Gourel l'a vu.
Et celui qu'ils ont vu n'est pas celui que la femme de chambre a vu dans l'escalier de service en traînant Chapman par la main.
Alors, votre système ?
Vous voulez dire la vérité, monsieur le président ?
La voici.
Ou du moins, ce que je sais de la vérité.
Mardi, le 16 avril, un individu Lupin a fait irruption dans la chambre de M. Castlebar vers 2 heures de l'après-midi.
Un éclat de rire interrompit M. Lenormand, c'était le préfet de police.
Laissez-moi vous dire, M. Lenormand, que vous précisez avec une hâte un peu excessive. Il est prouvé qu'à 3 heures, ce jour-là, M. Castlebar est entré au Crédit Lyonnais et qu'il est descendu dans la salle des coffres. Sa signature sur le registre en témoigne.
Monsieur Lenormand attendit respectueusement que son supérieur eût fini de parler. Puis, sans même se donner la peine de répondre directement à l'attaque, il continua.
Vers 2 heures de l'après-midi, Lupin, aidé d'un complice, un nommé Marco, a ligoté Monsieur Castlebar, l'a dépouillé de tout l'argent liquide qu'il avait sur lui et l'a contraint à révéler le chiffre de son coffre du Crédit Lyonnais. Aussitôt le secret connu, Marco est parti. Il a rejoint un deuxième complice, lequel, profitant d'une certaine ressemblance avec M. Castlebar, ressemblance d'ailleurs qu'il accentua ce jour-là en portant des habits semblables à ceux de M. Castlebar et se munissant de lunettes d'or, entra au Crédit Lyonnais, imita la signature de M. Castlebar, vida le coffre et s'en retourna, accompagné de Marco. Celui-ci aussitôt téléphona à Lupin. Lupin, sûr alors que M. Castlebar ne l'avait pas trompé et le but de son expédition étant rempli, s'en alla.
Valenglay semblait hésitant.
Oui, oui, admettons. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'un homme comme Lupin ait risqué si gros pour un si piètre bénéfice. Quelques billets de banque et le contenu, toujours hypothétique, d'un coffre-fort.
Lupin convoitait davantage.
Il voulait ou bien l'enveloppe en maroquin qui se trouvait dans le sac de voyage, ou bien la cassette en ébène qui se trouvait dans le coffre-fort.
Cette cassette, il l'a eue, puisqu'il l'a renvoyée vide.
Donc aujourd'hui, il connaît, ou il est en voie de connaître, le fameux projet que formait M. Castlebar, et dont il entretenait son secrétaire quelques instants avant sa mort. Quel est ce projet?
Je ne sais pas.
Le directeur de l'agence, Barbareux, auquel il s'en était ouvert, m'a dit que M. Castlebar recherchait un individu, un déclassé, paraît-il, nommé Pierre Leduc. Pour quelle raison cette recherche, et par quel lien peut-on la rattacher à son projet, je ne saurais le dire.
Soit, conclut Valenglay. Voilà pour Arsène Lupin, son rôle est fini.
M. Castlebar est ligoté, dépouillé, mais vivant.
Que se passe-t-il jusqu'au moment où on le retrouve mort?
Rien, pendant des heures.
Rien, jusqu'à la nuit.
Mais au cours de la nuit, quelqu'un est entré.
Par où?
Par la chambre 420, une des chambres qu'avait retenue M. Castlebar. L'individu possédait évidemment une fausse clé.
Mais,
s'écria le préfet de police, entre cette chambre et l'appartement, toutes les portes étaient verrouillées, et il y en a cinq.
Restait le balcon.
Le balcon?
Oui,
c'est le même pour tout l'étage sur la rue de Judée.
Et les séparations?
Un homme agile peut les franchir.
Le nôtre les a franchis. J'ai relevé les traces.
Mais toutes les fenêtres de l'appartement étaient closes, et on a constaté après le crime qu'elles l'étaient encore.
Sauf une,
celle du secrétaire Chapman, laquelle n'était que poussée. J'en ai fait l'épreuve moi-même. Cette fois, le président du conseil parut quelque peu ébranlé, tellement la version de M. Lenormand semblait logique, serrée, étayée de faits solides. Il demanda avec un intérêt croissant
« Mais cet homme, dans quel but venait-il ?
Je ne sais pas. »«
Ah, vous ne savez pas ?
Non ?
Pas plus que je ne sais son nom. »«
Mais pour quelle raison a-t-il tué ?
Je ne sais pas. » »«
Tout au plus, a-t-on le droit de supposer qu'il n'était pas venu dans l'intention de tuer, mais dans l'intention lui aussi, de prendre les documents contenus dans l'enveloppe de maroquin et dans la cassette, et que, placé par le hasard en face d'un ennemi réduit à l'impuissance, il l'a tué ?»
Valenglay murmura.
« Cela se peut, oui, à la rigueur. Et selon vous, trouva-t-il les documents ?»«
Il ne trouva pas la cassette puisqu'elle n'était pas là, mais il trouva au fond du sac de voyage l'enveloppe de maroquin noir.
De sorte que Lupin et l'autre en sont au même point tous les deux. Tous les deux, ils savent, sur le projet de Castlebar, les mêmes choses. »«
C'est-à-dire, nota le président, qu'ils vont se combattre. »«
Justement.
Et la lutte a déjà commencé. »
L'assassin, trouvant une carte d'Arsène Lupin, l'épingla sur le cadavre. Toutes les apparences seraient ainsi contre Arsène Lupin.
Donc Arsène Lupin serait le meurtrier.
En effet,
déclara Valenglay. Le calcul ne manquait pas de justesse.
Et le stratagème aurait réussi, continua M. Lenormand, si par suite d'un autre hasard, défavorable celui-là, l'assassin, soit à l'aller, soit au retour, n'avait perdu, dans la chambre 420, son étui à cigarette, et si le garçon d'hôtel, Gustave Bedeau, ne l'y avait ramassé. Dès lors, se sachant découvert ou sur le point de l'être,
comment le savait-il?
Comment?
Mais par le juge d'instruction Formerie lui-même.
L'enquête a eu lieu toutes portes ouvertes. Il est certain que le meurtrier se cachait parmi les assistants, employés d'hôtel ou journalistes, lorsque le juge d'instruction envoya Gustave Bedeau dans sa mansarde chercher l'étui à cigarette.
Bedeau monta, l'individu le suivit et frappa.
Seconde victime.
Personne ne protestait plus.
Le drame se reconstituait, saisissant de réalité et d'exactitude vraisemblable.
Et la troisième? Fit Valenglay.
Celle-là s'offrit elle-même au coup. Ne voyant pas revenir Bedeau, Chapman, curieux d'examiner lui-même cet étui à cigarette, partit avec le directeur de l'hôtel. Surpris par le meurtrier, il fut entraîné par lui, conduit dans une des chambres et à son tour assassiné.
Mais pourquoi se laissa-t-il ainsi entraîner et dirigé par un homme qu'il savait être l'assassin de M. Castlebar et de Gustave Bedeau?
Je ne sais pas. Pas plus que je ne connais la chambre où le crime fut commis.
Pas plus que je ne devine la façon vraiment miraculeuse dont le coupable s'échappa.
On a parlé, demanda M. Valenglay, de deux étiquettes bleues.
Oui.
L'une trouvée sur la cassette que Lupin a renvoyée, l'autre trouvée par moi et provenant sans doute de l'enveloppe en maroquin que l'assassin avait volée.
Eh bien,
pour moi, elle ne signifie rien. Ce qui signifie quelque chose, c'est ce chiffre 813 que M. Castlebar inscrivit sur chacune d'elles. On a reconnu son écriture. Et ce chiffre 813 ?
Mystère.
Alors ? Alors, je dois vous répondre une fois de plus que je n'en sais rien.
Vous n'avez pas de soupçon ?
Aucun. Deux hommes à moi habitent une des chambres du Palace Hotel, à l'étage où l'on a retrouvé le cadavre de Chapman. Par eux, je fais surveiller toutes les personnes de l'hôtel. Le coupable n'est pas au nombre de celles qui sont parties.
N'a-t-on pas téléphoné pendant le massacre ?
Oui. De la ville, quelqu'un a téléphoné au Major Parbury, une des quatre personnes qui habitaient le couloir du premier étage.
Et ce Major ?
Je le fais surveiller par mes hommes. Jusqu'ici, on n'a rien relevé contre lui.
Et dans quel sens allez-vous chercher ?
Oh, dans un sens très précis. Pour moi, l'assassin compte parmi les amis ou les relations du ménage Castlebar. Ils suivaient leurs pistes, ils connaissaient leurs habitudes, la raison pour laquelle M. Castlebar était à Paris, et ils soupçonnaient tout au moins l'importance de ses desseins.
Ce ne serait donc pas un professionnel du crime ?
Non, non, mille fois non.
Le crime fut exécuté avec une habileté et une audace inouïe, mais il fut commandé par les circonstances.
Je le répète, c'est dans l'entourage de M. et Mme Castlebar qu'il faut chercher. Et la preuve, c'est que l'assassin de M. Castlebar n'a tué Gustave Bedeau que parce que le garçon d'hôtel possédait l'étui à cigarette, et Chapman que parce que le secrétaire en connaissait l'existence.
Rappelez-vous l'émotion de Chapman. Sur la description seule de l'étui à cigarette, Chapman a eu l'intuition du drame. S'il avait vu l'étui à cigarette, nous étions renseignés. L'inconnu ne s'y est pas trompé, il a supprimé Chapman, et nous ne savons rien que ses initiales L et M.
Il réfléchit et prononça.
Encore une preuve qui est une réponse à l'une de vos questions, monsieur le président. Croyez-vous que Chapman eût suivi cet homme à travers les couloirs et les escaliers de l'hôtel s'il ne l'avait déjà connu ?
Les faits s'accumulaient. La vérité, ou du moins la vérité probable, se fortifiait.
Bien des points, les plus intéressants peut-être, demeuraient obscurs.
Mais quelle lumière ! À défaut des motifs qui les avaient inspirés, comme on apercevait clairement la série des actes accomplis en cette tragique matinée.
Il y eut un silence. Chacun méditait, cherchait des arguments, des objections.
Enfin, Valanglais s'écria. Mon cher Lenormand, tout cela est parfait. Vous m'avez convaincu.
Mais au fond, nous n'en sommes pas plus avancés pour cela.
Comment ?
Mais oui. Le but de notre réunion n'est pas du tout de déchiffrer une partie de l'énigme. Qu'un jour ou l'autre, je n'en doute pas, vous déchiffrerez tout entière, mais de donner satisfaction, dans la plus large mesure possible, aux exigences du public. Or, que le meurtrier soit Lupin ou non, qu'il y ait deux coupables, ou bien trois, ou bien un seul, cela ne nous donne ni le nom du coupable, ni son arrestation. Et le public a toujours cette impression désastreuse que la justice est impuissante.
Qu'y puis-je y faire ?
Précisément, donner au public la satisfaction qu'il demande.
Mais il me semble que ces explications suffiraient déjà.
Des mots !
Il veut des actes. Une seule chose le contenterait, une arrestation.
Diable ! Nous ne pouvons pourtant pas arrêter le premier venu.
Ça vaudrait mieux que de n'arrêter personne,
fit Valanglais en riant.
Voyons, cherchez bien. Êtes-vous sûr d'Edwards, le domestique de Castlebar ?
Absolument sûr.
Et puis non, monsieur le président, ce serait dangereux, ridicule, et je suis persuadé que monsieur le procureur général lui-même...
Il n'y a que deux individus que nous avons le droit d'arrêter. L'assassin, je ne le connais pas, et Arsène Lupin.
Eh bien ?
On n'arrête pas Arsène Lupin, ou du moins, il faut du temps, un ensemble de mesures que je n'ai pas encore eu le loisir de combiner, puisque je croyais Lupin rangé ou mort.
Valanglais frappa du pied, avec l'impatience d'un homme qui aime bien que ses désirs soient réalisés sur le champ.
Cependant, mon cher Lenormand, il le faut
pour vous aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez des ennemis puissants et que si je n'étais pas là...
Enfin, il est inadmissible que vous, Lenormand, vous vous dérobiez ainsi.
Et les complices, qu'en faites-vous ?
Il n'y a pas que Lupin, il y a Marco. Il y a aussi le coquin qui a joué le personnage de M. Castlebar pour descendre dans les caves du Crédit Lyonnais.
Cela vous suffirait-il, monsieur le président ?
S'il me suffirait, nom d'un chien, je vous crois.
Eh bien, donnez-moi 8 jours.
8 jours ?
Mais ce n'est pas une question de jours, mon cher Lenormand. C'est plus simplement une question d'heures. « Combien m'en donnez-vous, monsieur le président ?» Valanglais tira sa montre et ricana. « Je vous donne 10 minutes, mon cher le Normand. » Le chef de la sûreté tira la sienne et scanda d'une voix posée. « C'est 4 de trop, monsieur le président. »